J'ai écrit un livre, une sorte de roman, et je me demandais comment faire.
Eh ben, si c'est un roman, vous pouvez le proposer aux éditeurs. Mais ne vous faites pas d'illusions. Si vous n'avez pas une rubrique dans un journal, si vous n'êtes pas pistonné, c'est la croix et la bannière pour faire éditer un premier livre. Enfin, vous pouvez toujours essayer, hein. Vous êtes jeune, tentez votre chance. Rien n'est plus beau que de voir paraître un livre qu'on a écrit. Rien n'est plus beau. Sauf peut-être de mettre au monde un enfant qu'on a porté pendant 9 mois dans son ventre. Mais ça, nous n'en sommes pas capables, hein. Enfin, pas encore.
C'est mère qui donne naissance à des mots.
Nathalie Sarraute a écrit jusqu'à l'âge de 100 ans. Elle n'a jamais arrêté.
Nancy Houston.
Marguerite Duras était mère. Je me souviens d'avoir lu une interview avec elle qui datait de l'époque de la naissance de son fils, Jean Mascolo. Et on a dit, alors Marguerite Duras, ça fait quel effet d'être mère de famille, vous qui, hein, comme romancière, ça vous fait quel effet d'être mère de famille? Elle a dit, pourquoi de famille? Je suis mère, oui. Et elle a écrit de très belles pages sur la maternité. Et ces personnages sont souvent des mères aussi. C'est absurde, cette histoire d'opposition entre maternité et romancier.
Quand je pense à ma vie,
Marguerite Duras,
je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être l'amour de mon enfant.
Revendiquer son identité de mère et d'auteur est le souhait de ces mères du XXIe siècle. Par tradition, la littérature a été pendant longtemps une activité majoritairement masculine. Les thèmes de la naissance et de la maternité ont souvent été absents du monde des lettres. Aujourd'hui, réfléchir aux enjeux de l'écriture face à l'enfantement semble être devenu un besoin viscéral autant qu'intellectuel. Entre l'art et la vie, entre l'esprit et le corps, la création et la procréation, de nombreux écrivains manifestent le refus de choisir. Alors, mauvaise mère ou romancière inachevée? Plénitude totale ou exaspération de l'écrit? Frustration ou accomplissement? Et si c'était un peu de tout ça à la fois, à des moments différents? Si certaines femmes écrivains ont pris la plume pour s'exprimer sur ce sujet, il reste malgré tout et encore assez confidentiel. Nous en avons rencontré 3, femmes et écrivains. Nancy Houston, Tanella Bonny et Pascal Fontenot, ainsi qu'un homme, Xavier Deutsch. Il n'a pas d'enfant et parle de ses choix.
Donc c'est mon bureau qui est assez nouveau, qui a été construit il y a peu de temps. Et en ce moment, il y a des travaux dans ma maison parce que ma compagne va venir me rejoindre et elle a un petit garçon. Or, ce bureau est séparé de la maison, physiquement séparé de la maison. Et donc j'imagine qu'il devrait y avoir de la place pour exercer mon métier dans les limites de ce bureau et qu'il y aurait de la place dans la maison pour un travail différent. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, à l'approche de mes 44 ans, ma réponse serait un petit peu plus nuancée. Mais en tout cas, mon premier roman est paru il y a 20 ans, donc j'ai derrière moi un long parcours. Et durant toute cette période, j'ai soutenu que mon travail d'écriture était presque comme une entrée en religion qui rendait incompatible une vie de famille. Aujourd'hui, mon point de vue a un petit peu changé.
Depuis la naissance, je n'avais pas eu la possibilité de travailler à ma thèse. Impossible de rendre les chapitres promis à mon patron de thèse qui commençait à s'impatienter. me harcelant de coups de fil. Lorsque Léa était enfin couchée, je m'endormais, épuisée, sur l'ordinateur. Et je me réveillais 2 heures plus tard pour la nourrir à nouveau. À 2 heures du matin, je regardais mon bébé qui tétait. La vie, ce n'est qu'une répétition de cet acte, une recherche du sein de la mère. On n'aspire qu'à revenir à l'unité, au centre, au paradis de l'enfant contre sa mère. L'amour, peut-être, est une recherche de ce paradis-là. La jouissance, l'orgasme ne sont rien d'autre que la conquête de l'unité perdue de la mère et l'enfant. C'est peut-être la raison pour laquelle on confond l'amour et l'éternité.
Aliette Abécassis.
Alors Nancy Houston, en lisant la 4e de couverture de votre journal de la création, je lis « Pendant des millénaires, tout paraissait simple, aux hommes la création, aux femmes la procréation ». Alors, je voulais savoir, en 2009, quel regard vous portez sur ce rapport maternité-création ? Est-ce que c'est quelque chose qui, en 2009, peut paraître résolu ?
Il n'y a pas que l'écriture comme création, bien sûr. Il y a toutes sortes de formes artistiques auxquelles les femmes occidentales sont venues de plus en plus massivement ces dernières décennies. Et pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que ce problème va se résoudre. Je pense qu'il y aura toujours un dilemme. Même si les hommes, un certain nombre d'hommes dans certains milieux en Occident ont appris et compris toute la beauté et toute l'importance de la vie avec les tout-petits, et donc sont plus présents que de par le passé dans la vie domestique, dans le soin des bébés, et y compris parfois les tâches ménagères, et donc libère un petit peu les femmes pour ce type de travail artistique, je crois qu'il y aura toujours un dilemme. Bon, il y a 2 sexes, quoi. Il y a un sexe qui porte et met les enfants au monde, et il y a un sexe qui ne le fait pas. Je crois qu'il y aura toujours une différence de ce fait dans leur approche du monde artistique. Je crois que les femmes vont toujours se sentir, pas seulement dans les métiers artistiques d'ailleurs, mais vont toujours se sentir déchirées entre l'implication, l'engagement professionnel et les exigences de la vie intime. Et je crois que les hommes vont toujours avoir un rapport différent à l'identité artistique ou public, parce qu'ils ont plus peur de la mort. Je crois que les hommes ont vraiment plus peur de la mort. Il y a une angoisse de la mort beaucoup plus forte chez les hommes du fait que leur participation à la reproduction est tellement ponctuelle et invisible. Alors, ensuite, bon, chacun se débrouille ou chacune se débrouille comme elle peut. Les femmes, souvent, je trouve aussi, il y a ce que j'appelle le dilemme de la romancière, qui n'est pas donc le problème de comment organiser la journée pour avoir du temps pour écrire et pour s'occuper de la vie à la maison et les enfants, mais c'est plutôt sur le plan de la morale. Comment est-ce qu'on arrive à être amoral comme doit forcément l'être une romancière, et puis moral comme doit forcément l'être une maman? Et ça, c'est aussi un dilemme que les femmes vivent de façon, peuvent vivre de façon aiguë. Et je crois que beaucoup de femmes ont tellement endossé la moralité du rôle maternel qu'elles ont beaucoup de mal à assumer la moralité du rôle d'écrivain.
30-40, madame Guerguignante, un cap d'aille de fil, miou! 30-40, madame Guerguignante, un cap d'aille de fil, miou!
Les journaux s'entassent sur mon lit, pas déplié. Les illusions perdues restent cornées à la même page, celle de la veille de l'accouchement. Le roman sur lequel je travaillais est en panne. Les copines qui m'appellent s'entendent raccrocher au nez au moindre hurlement de Charlotte, et quand le papa rentre le soir, on récapitule, anxieux, l'heure des tétés et le poids gagné. On s'émerveille parce qu'elle a dit à eux, Charlotte ne prononce pas les R. Huit clos dans le monde du bébé, qui à l'aide de ses divisions blindées, table allongée, paquet de couches, biberon, chauffe-biberon, stérilisateur, landau, couffin, siège tout confort, goutte pour le nez, poudre pour digérer, ours en pluche, envahit l'entrée, la cuisine, le salon, la table de la salle à manger, après m'avoir piqué la moitié de mes placards pour sa collection de grenouillères et mon bureau pour en faire sa chambre. Le paroxysme de la non-identité, je le connaîtrai un après-midi sur le champ de Mars. Pétri de bonne lecture, un bébé doit prendre l'air tous les jours, et muni d'un landau tout neuf, je pars étrenner ma progéniture et la suspension baby-chose sous les tilleuls, derrière la tour Eiffel. J'ai à peine fait 100 mètres que je m'aperçois en pied dans une vitrine de vin Lasconi. C'est moi, ça ? Cette dame qui pousse un landau alors qu'on donne les incorruptibles au Kino Panorama juste à côté ? Non, c'est pas moi. C'est une autre. Une maman. La maman modèle proposée par les magazines, soulignée par les mères, les grands-mères, la maman parfaite au service de son enfant, le sein dans une main, le sourire extatique de la Madone aux lèvres. Et de marque-boutée sur le frein, demi-tour maison. Charlotte ira se promener, mais sans moi. Je paierai une mercenaire maternelle, deux, trois s'il le faut. Je renonce à être la maman, je serai maman à ma manière. Je refuse de me dissoudre dans les biberons et les conversations sur les laits maternisés. Je l'aimerai autrement, mais au moins, je l'aimerai bien. Sans ressentiment, sans lui en vouloir de m'avoir ratiboisé l'ego. Je revendique l'indignité maternelle. Sinon, c'est moi qui passe, moi, mon Jules, mes jours et nos nuits, nos dîners en tête-à-tête où on parle d'autre chose que de l'angoisse crépusculaire de Charlotte. Et de me demander comment font les autres, les bonnes mères, celles qui plongent dans la maternité à plein temps, celles qui n'ont pas le choix, pas les moyens d'avoir une Rosita modèle, celles qui n'osent pas avouer qu'elles en ont ras le couffin de la tétine à trois vitesses et du rototo à retardement. Et si l'instinct maternel n'était qu'un refuge pour celle-là ? Vous vous révoltez parce que vous avez le temps de penser, me précise mon médecin accoucheur. Les autres n'ont pas ce luxe et disparaissent peu à peu dans le bébé. Ça les arrange ou ça les dérange, mais très peu osent l'avouer. Alors voilà, je dédie cet article à toutes celles que ça dérange et qui n'osent pas l'avouer. Catherine Pancol pour le magazine Elle.
Quand j'entre chez eux, ça sent la famille. Ils ont beau se démener avec leurs guenilles, frotter de leur mieux jusqu'à ce que tout brille. Ça sent le bébé, ça sent la petite fille, ça sent la couche pleine et le lait caillé. Et même s'ils viennent de la nettoyer, même s'ils ont à peine fini de la poudrer, ben ça sent quand même le nombril mouillé. Dès que je passe leur porte, ça sent la petite, ça sent ce qu'elle rote et ce qu'elle régurgite. Même s'ils font brûler comme des vieux hippies l'encens le plus corsé, ça sent les hoggies. Même s'ils lavent et sèchent les serviettes souillées et qu'ils se dépêchent à tout bien ranger, il reste un arôme de table allongée, il reste un fantôme d'odeur de bébé. Y a pas un savon qui peut estomper le fumet d'un biberon qu'on fait réchauffer. Ça sent les gencives qui veulent pas se percer, ça sent la salive qui arrête pas de couler. Quand j'entre chez eux depuis quelques mois, je sais pas si c'est dégueu, ça sent le pyjama, un parfum terrible qui me cueille et m'assaille. Ça sent le fruit d'entrailles, le petit crâne humide, dès que je m'immisce dedans leur bercail. Ou bien la chose pisse, ou bien la chose braille, et sitôt qu'elle hurle, ça sent la mamelle gercée qui éjacule son jet maternel. Ils ont beau lui mettre la plus jolie robe, c'est beau, mais je regrette, ça sent les microbes. Et même s'il parfume toute la maisonnée, ça sent le petit rhume qui va se propager. Dès que je passe leur porte, ça sent à plein pif les nuits en compote des parents captifs, ces heures en purée que le bébé mange pour mieux déféquer, pour mieux qu'on le change. Ils sont prisonniers de leur créature, dès qu'ils me voient entrer là par l'embrasure de leur porte plantée entre elles et l'air pur, ils me prient de rester et ils me capturent. Ils prennent mon manteau et le font disparaître à l'étage d'en haut, dans la chambre des maîtres. Ensuite, ils me guident vers le berceau de bois et l'ange m'envoie son halo fétide. Puis ça y est, leur voix s'élève suppliante, prends-la dans tes bras et ils me l'attendent. Dès que je la saisis, elle se raidit, elle louche, elle force, elle rougit, elle remplit sa couche. Comble de malheur, c'était pas étanche. Je sens une chaleur traverser ma manche. Je porte la fragrance de l'incontinence. Ça s'accroche aux poils de mes parois nasales. Ça sent le bébé sale en farine et talc. Ça sent le poulet cru en train de mariner dans son propre jus. Sa sauce fécale, ça sent le petit Jésus qui a sali sa paille. Ça y est, j'ai le chandail qui sent la cuvette. Il faut que je m'en aille, que je batte en retraite. J'ai le cœur dans la gorge, je cherche un mot tendre. Je sais qu'ils attendent que je fonde en éloge. Mais les bébés frais, chauves comme chevelus, on sait que c'est laid autant que ça pue.
Je peux dire, je n'aurais peut-être pas fait d'enfant si je n'avais pas découvert la grâce et la joie de vivre avec un enfant à travers un homme qui vivait seul avec un enfant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, au fond, c'est très très grave ce qu'ont fait les Sartre, Beauvoir et autres intellectuels de ces dernières années, que de dévaloriser la vie matérielle, la vie familiale, de vitupérer systématiquement contre la famille, et de, si ce n'est pas pour dire que c'est le lieu de toutes les oppressions et de toutes les haines et de toutes les dégueulasseries, au moins de dire c'est trivial. Au moins de dire la vie quotidienne, c'est forcément ennuyeux, c'est forcément... Oui, c'est la trivialité, c'est la répétition, c'est la routine, c'est écervelant, c'est débilitant, etc. Donner à manger à quelqu'un, c'est un geste superbe, que ce soit un bébé ou un adulte. Pourquoi est-ce qu'on trouverait ça génial d'aller au restaurant avec les potes et nul de donner à manger à son enfant ? C'est incompréhensible. Pourquoi cette haine de l'espace domestique? Chacun a besoin de rentrer chez soi. Chacun a besoin d'ordre et de beauté et de calme pour se retrouver. Chacun apprécie quand même un bon repas que lui sert quelqu'un qu'il aime. Alors,
poche plate, plate, poche. Plate,
plate, plate, plate.
Ça veut rien dire, ça.
Potache, potache, potache. Potache, potache.
Hier soir encore, j'entendais le petit garçon de ma compagne qui disait « Maman, maman, c'est extraterrestre que quelqu'un puisse adresser ce vocable. Maman, c'est un truc de dingue. » Donc moi, je n'ai jamais connu et je ne connaîtrai peut-être jamais cette expérience d'entendre un petit garçon ou une petite fille m'appeler papa. Donc, comme je n'ai jamais connu cela, je ne peux que le mythifier, je ne peux que le fantasmer. Et fatalement, je veux dire, la pression sociale est telle que avoir un enfant, ça semble être un truc énorme, énorme, un truc qui remplit la vie tout entière. C'est l'impression que j'ai, c'est que le fait d'avoir un enfant est un truc tellement énorme, remplit tellement la vie qu'il n'y aurait pas moyen de me séparer de cela. Ou que pour m'en séparer, il me faudrait un effort, une énergie tellement énorme qu'il ne me resterait pas beaucoup d'énergie pour écrire mon roman lui-même.
Mais non, pour avoir une œuvre, il faut être dans la vie, il faut observer la vie, il faut se salir au contact de la vie, il faut voir quels sont les problèmes des gens.
surtout romancière, je dirais romancier. Peut-être que les poètes peuvent rester dans un dialogue avec leur muse. C'était très bien que Rilke s'isole le temps qu'il fallait, les années d'impuissance et de frustration qu'il fallait, et de se refuser la vie commune pour pouvoir écrire des choses qui nous aident à vivre maintenant. Mais pour les romanciers, non, je crois que c'est important d'être dans la vie.
Certains jours de déprime, comme aujourd'hui, je trouve que c'est une trop grosse charge. J'ai alors très fortement l'instinct de fuite et pas du tout l'instinct maternel. Depuis la naissance de Mathieu, tous les jours, je suis obligée d'être là, solide. Je dois faire attention à ma santé, garder mes forces. Je n'ai plus droit au suicide. Alors qu'avant, j'aimais bien flirter avec cette solution comme ultime porte de sortie. Marie Darieux-Sec.
J'ai l'impression que dans ma vie, les choses se sont faites naturellement. Mais maintenant, je me rends compte que aussi, il faut se battre contre les circonstances. C'est-à-dire quand, en Côte d'Ivoire, il y a eu, depuis quelques années, cette guerre et tout, c'est comme si j'avais eu tout compte une vie assez rangée et que les circonstances m'ont obligée à être encore, disons, plus résistante que je ne l'étais au départ. C'est ça, c'est-à-dire avec les circonstances, maintenant je sais ce que je veux, à savoir écrire ou rien. Pour moi, j'en suis là aujourd'hui.
Parfois, en bibliothèque, je pense aux millions de livres médiocres, aux gros tas de savoirs périmés ou erronés qui ne feront plus jamais qu'accumuler de la poussière. Je pense aux millions d'épouses qui ont fait taire des millions d'enfants afin que les hommes puissent écrire ces livres-là. Chut, papa travaille! Et je me dis qu'en fin de compte, la véritable perte de temps était souvent l'écriture. N'aurait-il pas mieux valu pour tout le monde que ces hommes jouent avec leurs enfants? D'où vient cette survalorisation de l'artiste et de l'auteur qui n'a fait que s'exacerber, du moins en Occident, depuis 200 ans? Comment se fait-il que le créateur soit l'homme par excellence, au point que Beauvoir puisse affirmer que celui-ci n'a pas encore pu s'incarner dans la femme? C'est que, bien sûr, l'art est une des manifestations les plus spectaculaires de la rupture entre l'humain et l'animal. L'art dit non, ou tout au plus oui mais, à la nature. S'érige contre elle, déclare son indépendance par rapport à elle. À travers l'art, l'homme s'affirme non pas créature mais créateur. Et alors que rien n'est plus banal que de dire qu'un créateur est amoureux fou de son activité artistique, voire marié avec elle, on n'entend presque jamais parler de l'art comme époux de la femme artiste.
Des enfants, j'en ai eu 20 que je continue à élever. Ils ne font pas pipi au lit, ils ne me coûtent pas d'argent, mais m'en rapportent. Ma descendance, c'est mon œuvre. Mes livres, c'est ce que je peux donner de mieux. Voilà de l'égoïsme sans mauvaise conscience. D'ailleurs, je vais suggérer à Jack Lang d'accorder des allocations familiales à tout écrivain auteur de plus de 3 livres.
Gabriel Matzneff.
Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse. La voilà. Demain, le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller.
Fais dodo.
Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt. J'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué,
et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire
chier. Fais dodo.
Demain, le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson.
Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées. Dors, dors, dors.
Bordel.
Pourquoi tu dors pas? Dors, dors, dors.
Laisse dormir ton papa.
Ce que tu regardes en riant, que tu prends pour des parachutes, ce sont mes paupières, mon enfant. C'est dur d'être un adulte. Allez, on joue franc jeu, on met carte sur table. Si tu t'endors, je t'achète un portable, un troupeau de poney, un bâton de dynamite. J'ajoute un kangourou si tu t'endors tout de suite. Tes paupières sont lourdes. En mon pouvoir, une sensation de chaleur engourdit ton corps. Tu es bien, tu n'entends plus que ma voix. Je compte jusqu'à trois et tu vas t'endormir. Pourquoi tu veux pas dormir? Pourquoi tu dors pas? Je te donnerais bien un somnifère, mais y'en a plus, demande à ta mère. T'es insomniaque ou quoi? Puisque tu me laisses pas le choix.
Voici le temps des menaces.
Si tu dors pas, je te place.
Dors, dors, dors.
Mais on dirait que ça marche. Tu fermes les yeux, tu es si sage. C'est merveilleux, tu dors comme un ange, tu as de la chance. Moi aussi j'ai sommeil, mais c'est le matin. Il faut que je m'habille, je me suis énervé. Mon amour, je le regrette pour me faire pardonner. Je vais te jouer un peu de trompette.
J'avais aussi mon travail à l'université en tant que prof. Les enfants étaient à l'école et très souvent ce qui se passait, c'est que je les déposais le matin. Souvent le père aussi les déposait. Il faut dire aussi que bon, je ne me plains pas d'avoir eu un père comme ça pour mes enfants, parce qu'il était aussi très sensible à un certain nombre de questions. Mais même quand il n'était pas là, parce que c'est vrai qu'il bougeait aussi beaucoup, j'allais les déposer à l'école, j'allais assurer mes cours à l'université. Et dans le même temps, quand je rentrais chez moi, il fallait trouver un espace pour écrire. C'était pas évident parce que gérer une famille, avoir son espace, sans compter aussi la famille élargie en Afrique, je vous assure que là, vraiment, c'est pas du tout évident. Mais tout compte fait, je trouvais toujours une heure, deux heures dans la journée et puis aussi le soir quand tout le monde dormait pour écrire. Donc finalement j'ai tout fait dans le même temps, et des études et des enfants et un mari et m'occuper de la famille.
Moi, ma démarche était féministe. Je voulais prouver qu'on pouvait écrire « Bref séjour chez les vivants », qualifié d'ambitieux, et pouvoir écrire ensuite « Le bébé ». Autrement dit, qu'on pouvait être tout à la fois une intellectuelle et une femme, une mère qui expulse le placenta et qui s'occupe de petits pots. Marie Darieux-Sec.
Comment on s'organise dans le quotidien quand on a trois enfants et qu'on a un livre à écrire, Pascal Fontenot ?
Donc c'est sûr que quand ils étaient petits, très petits, j'écrivais plutôt le soir, par exemple. J'écrivais pas quand ils étaient moyens petits, j'écrivais pas pendant les vacances scolaires. C'était impossible d'écrire pendant les vacances scolaires. J'écrivais peu pendant le week-end. J'écrivais de 8h30 à 3h20. Et à 3h20, au milieu de la phrase, s'il le fallait, je sautais dans ma voiture pour aller les chercher à l'école. C'est juste une contrainte. Après, on pousse un peu les contraintes et on se débrouille pour avoir du temps pour écrire. Maintenant, qu'ils sont beaucoup plus grands, c'est différent. Donc, je peux écrire pendant les vacances. J'ai même parfois intérêt parce qu'il n'y a personne et sinon je serais un peu désespérée. Mais par contre, j'ai du mal à écrire à certains moments de la journée parce qu'ils rentrent et il y a du bruit dans la maison. Aussi, quand ils étaient petits, je les collais devant une boîte de Lego, ils passaient l'après-midi, s'amusaient, tout ça, et puis voilà. Et après, entre guillemets, hein, je les rangeais dans leur lit et c'était terminé. Aujourd'hui, évidemment, ils viennent avec des questions de façon impromptue en disant « Dis maman, est-ce que je peux, installer une armoire pour faire pousser du cannabis dans ma chambre ?» Donc ça nécessite évidemment une disposition d'esprit qui est différente que quand ils étaient petits, où j'avais, entre guillemets, les bras plus occupés, mais l'esprit plus libre. Donc aujourd'hui, j'ai les bras moins occupés, mais l'esprit plus mobilisé.
Je ne peux pas dire que le roman jaillisse en général d'une vie parfaitement équilibrée. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'on cherche, l'équilibre. On cherche souvent à se déséquilibrer, on cherche la perturbation, on cherche le malheur.
Listen up, je suis ta mère, je suis ta mère, je suis ta mère, on a tué ma vie.
Je suis pas ta fille, mais je suis pas ta fille, mais je suis pas ta fille, tu n'es pas ma mère.
Je suis ta mère, je suis ta mère.
Et quand est-ce qu'elle écrit ta maman et comment est-ce qu'elle écrit ? Est-ce que tu sais un peu parler de ça ?
Elle écrit à l'ordinateur, puis elle imprime des pages et puis elle les donne à quelqu'un qui fait la couverture, qui fabrique le livre avec les pages qu'elle a imprimées.
Et elle travaille à quel moment en fait quand elle est en train d'écrire son livre ?
Ben, elle travaille quand on est à l'école, elle travaille des fois le week-end. Elle travaille quand on est à des anniversaires ou quand on est avec une copine.
Et c'est pas embêtant une maman qui travaille quand on est là parfois, quand le week-end ?
Bah des fois parce qu'on a envie de faire des choses avec elle ou avec lui, mais c'est pour le travail.
Et toi tu aimes bien écrire ?
Bon, quand c'est long j'aime pas trop parce que je commence à transpirer de la main et j'aime pas transpirer de la main. Et à l'école, on écrit beaucoup, je suis un tout petit peu habituée, mais j'aime pas trop. Mais Louise, une copine à moi, elle adore écrire. Donc elle a du bol, on écrit souvent.
Et au niveau de l'imagination, est-ce que tu as des idées comme ça pour écrire un livre ? Tu aurais une idée ?
Oui, mais si on me dit, par exemple, si on doit me dire « tu écris un texte avec deux noms communs, trois noms propres », j'arriverai pas beaucoup. Je préfère inventer une histoire comme on invente, pas avec on nous dit tu dois inventer une histoire avec cela, ceci et tout.
Et ça vient d'où toutes ces idées comme ça, tu crois ?
Ben, de ceux qui ont écrit les livres, des écrivains mais célèbres qui inventent des livres, puis les écrivains normaux, ils reprennent les livres et puis ils les vendent.
Ils piquent les idées des écrivains célèbres.
Oui, mais ils en, par exemple, ils piquent un tout petit bout de par exemple, un écrivain, et puis qu'un autre bout d'une autre écrivaine, et puis ils les rassemblent et ils essayent de former une histoire avec.
L'enfant s'opposait au livre. Comme le froid au chaud, le jour à la nuit, le blanc au noir, le yin au yang, l'homme à la femme. Comme le monde allait sur deux jambes, il fallait respecter l'équilibre, répartissant toujours la charge entre l'un et l'autre. À la fin des répartitions, le livre était jour, chaud, yang et homme. L'enfant, nuit, froid, yin et femme. Dès lors que j'étais femme, j'avais des enfants, pas des livres. Argument historique, organiquement irréfutable chez les héritiers du tota mulier in utero. Une femme, c'est son ventre et rien d'autre. On n'a jamais vu quelqu'un produire des livres dans son ventre et les amener au jour par un canal ouvert entre les jambes. N'empêche, il fallait ne pas avoir la vue très nette pour confondre deux objets aussi disparates qu'un livre et un enfant. Il fallait être ermite, vieillissant, catareux ou avoir le goût prononcé de la plaisanterie pour les opposer l'un à l'autre comme des semblables et des rivaux. À ce compte-là, on aurait pu opposer l'enfant et l'épée, l'enfant et la coupe en fer forgée, l'enfant et le ballotin de paille tressée. Pourquoi l'enfant et le livre ? À cause de la naissance, de toutes ces métaphores qu'appelle la naissance et qui s'appliquent à une quantité d'expériences pour peu qu'elles présentent un petit quelque chose d'inaugural. Naissance. La découverte, l'apprentissage, la révélation. Naissance, la grâce et le rebirth de mon beau-frère en colère. Naissance, la peinture d'une toile, la construction d'un pont, l'écriture d'un livre. Toute naissance approximative est lointainement apparentée dans l'idée du passage et du recommencement. Marie Desplechin.
Ces mères qui donnent naissance à des mots a été conçu et réalisé par Vinciane Moschler, avec la participation de Nancy Houston, Tanella Bonny, Pascal Fontenot et Xavier Deutsch. Avec les voix de Micheline Goutals, Michel Bernard, Thierry Van Roy et Christine Van Acker. Montage Christine Van Acker, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Communauté française de Belgique.
J'ai toujours espéré qu'un jour je pourrais grandir.
Merci.